Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il est l'un des pères fondateurs des États-Unis, un inventeur hors pair aussi, qui a appris à manier la paire de fous sur un plateau à damier. Et oui, je vous raconte un gagnant aux échecs, mais pas uniquement. Benjamin Franklin. Nous sommes au milieu des années 1770 et une curieuse invention commence à faire parler d'elle à travers les cours d'Europe. Un automate qu'on promène de ville en ville. Si ce type de machine n'est pas un spectacle particulièrement rare dans les milieux aristocratiques, il n'en reste pas moins prodigieux. L'automate a une forme humaine, celle d'un personnage au visage austère qui fume la pipe. Un homme aux yeux gris, à la barbe noire, habillé d'une cape et coiffé d'un turban qui lui vaut rapidement un surnom, le Turc mécanique. Mais le plus impressionnant ne tient pas tant à son aspect qu'à ses capacités. Sur le buffet devant lequel il est assis trône un échiquier splendide avec ses pièces en bois d'érable. Le Turc mécanique les déplace de sa main de bois comme le ferait une main humaine. Au point que pour beaucoup de spectateurs, il doit y avoir quelque chose de diabolique là-dedans. Car le Turc ne se contente pas de pousser des pièces au hasard, ce qui en ferait déjà une merveille d'artisanat et de machinerie. Il est doué, même tellement doué, qu'en quelques mois, l'automate peut se targuer d'avoir écrasé une longue liste de joueurs chevronnés. Dans toute l'Europe, battre le Turc mécanique devient une sorte de défi mondain pour les joueurs les plus en vue ou les plus doués. Et ce ne sont pas forcément les mêmes. Parmi eux, on compte une figure éminemment respectée en Europe, Benjamin Franklin, installé en France depuis 1777, où il est désormais premier ambassadeur des tout jeunes États-Unis d'Amérique. Et ce jour de 1783, il se décide donc à affronter la machine. À cette date, Benjamin Franklin est un homme déjà âgé, il a 77 ans, mais toujours aussi vif et alerte. Son tempérament débonnaire, sa gaieté, sa gentillesse et son humour ont depuis longtemps conquis les cœurs des Parisiens, mais il ne lui offre en revanche aucun avantage contre ce drôle d'adversaire. Si on ne connaît pas l'issue de la rencontre, une chose est certaine. Même si Benjamin Franklin joue aux échecs depuis sa jeunesse, même si son intelligence aiguë n'est un secret pour personne, il a forcément eu affaire à forte partie. Il n'y a évidemment aucun sortilège là-dedans, mais une belle astuce d'illusionniste. Le Turc mécanique n'abrite pas uniquement des engrenages, mais aussi un compartiment caché, un minuscule réduit dans lequel un enfant pourrait se blottir. Un enfant, ou plutôt un nain. Et comme il se trouve que ce nain inconnu est un joueur d'échecs hors pair, le Turc mécanique cause quelques sueurs froides à ses adversaires, même si on gage qu'en bon rationaliste, Franklin a probablement dû flairer la véritable explication. L'épisode n'est évidemment qu'une anecdote, mais elle en dit long sur la place qu'occupent alors les échecs dans la bonne société européenne et tout particulièrement française. Une place bien supérieure à celle qu'elle occupe alors en Amérique, dans les colonies britanniques, où les joueurs sont rares. C'est pourtant là, à Philadelphie, que Benjamin Franklin découvre son premier échiquier à 25 ans, un âge où le jeune homme croule sous les activités les plus variées. Alors qu'il est né dans une famille d'artisans et de commerçants, Benjamin Franklin ne tarde pas à se trouver à l'étroit dans l'atelier de son père, un fabricant de chandelles. À 20 ans, ce sont les lettres, les sciences et les jeux de l'esprit qui l'attirent. Le jeune homme ne tarde pas à quitter son Boston natal pour New York, puis donc pour Philadelphie en Pennsylvanie. Touche à tout, aventureux et autodidacte, Franklin déploie des trésors d'inventivité et se lance dans les domaines les plus divers. Imprimeur et humaniste, il s'attache à répandre l'esprit des Lumières à longueur d'articles et crée la première bibliothèque municipale du Nouveau Monde dans l'idée de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la culture et au savoir. Organisateur né, Franklin est aussi le premier à imaginer un service public de lutte contre les incendies en créant la première brigade de soldats du feu du Nouveau Monde. Passionné de science, il s'initie à la physique, à la chimie, à la mécanique, mais surtout à l'optique et à l'électricité. C'est à lui que l'on doit le premier paratonnerre, à lui encore qu'on doit les lunettes à double foyer. Et lorsqu'il s'ennuie un peu, il prend le temps d'inventer les palmes ou de s'intéresser au Gulf Stream, ce grand courant océanique tiède qu'il est le premier à cartographier à l'occasion de ses voyages à Londres. Car c'est bien la relation entre l'Angleterre et ses colonies qui occupe très tôt Benjamin Franklin, comme ambassadeur de Pennsylvanie d'abord, comme négociateur ensuite quand l'ambiance se tend entre la couronne britannique et ses possessions américaines. Autant pour des questions fiscales que politiques. Convaincu de l'importance d'unir les colonies pour peser davantage dans le bras de fer qui s'engage, Benjamin Franklin s'installe à Londres, où ses qualités de diplomate lui offrent un respect unanime. Et les échecs lui servent souvent de porte d'entrée. Assez en tout cas pour qu'un tableau du peintre Edward May garde la trace d'une de ses parties, une défaite en l'occurrence. Au milieu des années 1760, Franklin profite des parties qu'il joue contre Caroline Howe, une figure de la haute société britannique, pour approcher ses deux frères, Richard et William, tous les deux très haut placés dans l'armée et la marine de sa très gracieuse majesté. Lady Howe était manifestement trop forte pour Benjamin Franklin, mais le véritable intérêt de la partie était sans doute ailleurs, à une époque où il s'agissait encore de trouver un terrain d'entente. Au milieu des années 1770, lorsque la volonté d'indépendance se fait de plus en plus forte en Amérique, Benjamin Franklin passe à l'étape supérieure. Respecté et très aimé, Benjamin Franklin rejoint alors le cercle restreint des pères fondateurs des États-Unis aux côtés de figures comme Thomas Jefferson ou George Washington. C'est lui qui rédige en grande partie la Déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 qui acte la rupture entre la couronne et ses colonies. Dans la guerre qui s'engage, on lui confie une mission essentielle, partir pour Paris afin de s'assurer du soutien de la France de Louis XVI. Mais là encore, les échecs continuent d'occuper une place essentielle dans la vie de Franklin, d'abord pour le plaisir, comme dirait Herbert Léonard, mais aussi pour le paraître. Partout où l'on joue, et surtout dans des cafés célèbres comme le Procope ou la Régence, Franklin affronte les meilleurs joueurs d'Europe. Il y tisse aussi des relations précieuses avec le Tout Paris. Et si le premier ambassadeur américain de l'histoire n'oublie jamais l'essentiel et réussit sa mission en s'assurant du soutien militaire de la France, le jeu occupe toujours une place essentielle. Essentielle jusque dans les relations parfois ambiguës qu'il entretient avec certaines dames de la haute société comme Madame Brion, dont le mariage ne l'empêche visiblement pas de flirter avec Benjamin Franklin en jouant plongé dans sa baignoire et pudiquement dissimulé par la petite tablette qui supporte l'échiquier. Mais il faut croire que les charmes de Madame Brion ne déconcentrent pas le vieil ambassadeur. Dans l'une de ses lettres, elle écrit, taquine, « Je suis encore un peu fâché des 6 parties d'échecs que vous avez gagnées de façon si inhumaine et je n'épargnerai rien pour me venger. » L'âge pourtant finit par rattraper Benjamin Franklin qui décide de retourner en Amérique en 1785, 2 ans après y avoir signé avec l'Angleterre l'accord qui garantit l'indépendance de sa jeune nation. C'est là, au soir de sa vie, que Benjamin Franklin écrit un ouvrage clé, « La morale des échecs », le premier essai jamais paru sur le sujet outre-Atlantique. Et comme toujours avec lui, le goût de la culture et de la pensée n'est jamais loin derrière le jeu d'esprit. « L'échiquier est une éthique », écrit Franklin. « Le jeu fortifie en nous plusieurs qualités précieuses, la prévoyance, la vigilance et la prudence. Mais surtout, conclut le père fondateur, nous y apprenons une leçon pour toute la vie. Quand tout semble aller mal, nous ne devons jamais nous décourager, mais espérer et chercher toujours résolument la solution de nos problèmes.
Europe 1, historiquement vôtre.